Dans dimanche prochain, normalement, je ne suis pas avec vous. Et il y en a plusieurs, malheureusement ou heureusement, qui ne sont pas là. Mais on a un petit événement familial, mais je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est un plein de défis, des Chinois qui débarquent. Il faut une météo extraordinaire, c'est-à-dire qu'on reprenne à peu près 15 degrés dans la semaine. Voilà, des tas de défis, des tas de miracles. Bon, et ce sera une cérémonie vraiment intime parce qu'on ne veut pas noyer les Chinois avec plein de Français. Donc voilà, c'est que ceux qui connaissent mon fils, c'est-à-dire les anciens de l'église qui seront de la fête, quoi. Et voilà, mais voilà, je vous le dis parce que... Il se marie, oui, bien sûr, il se marie. Avec une Chinoise. Et rappelez-vous ce que Luc a dit, qu'il y a quelque chose qui nous interpelle beaucoup par rapport à la Chine. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui ne savent pas que le seul saint officiel de Guebwiller, André Bauer, qui a donné son nom à la communauté de paroisse catholique de Guebwiller, il est mort martyr en Chine au début du XXe siècle, si ce n'est pas un signe ça. Donc Chine à fond. Moi je commence à penser chinois, parler chinois. Non, c'est une blague. Mais voilà, pour dire que... voilà. C'est d'où l'absence. Mais j'ai quand même dit, OK, on prend le message, et puis voilà. Et vraiment, ça me réjouit. Alors, attendez, maintenant, je passe au message. Voilà, après ça. Hop. Donc, un petit objet, enfin, deux. Celui du père, celui du fils, que je leur ai shippé sans leur demander. Alors, les Alex ne sont pas là, sinon ils n'auraient pas eu le droit de répondre. Pourquoi aujourd'hui, à quelques jours près, pourquoi? Rosh Hashanah. Alors, nouvel an juif. Pas le nouvel an biblique, d'ailleurs. Nouvel an biblique, c'est vers mars-avril. Hein. Ah bon? Donc, c'est pas biblique, Rosh Hashanah. Pourquoi maintenant et pourquoi pas en mars-avril, qui est le début de l'année biblique? Alors, on l'a chanté quand même, hein. Néhémie, la joie du Seigneur est ma force. Il y a eu après un grand temps d'apostasie où les Israélites ont fait n'importe quoi, un peu comme les Français, hein, n'importe quoi. Ils sont revenus à Dieu, ils sont revenus à la parole, ils sont revenus à l'obéissance à la parole. Il y a eu un grand temps de prise de conscience, simplement en écoutant la lecture de la Torah, la lecture de la parole, ils ont pris conscience que c'était énormément écarté, ils sont revenus. Et ça nous parle parce qu'en 2017, 500 ans après la réforme, 1517-2017, et on confesse que la France revient aussi à la parole, hein, et que ça veut dire, du temps de Néhémie, il y a eu un temps de profonde prise de conscience, un temps de repentance, mais aussi un temps de joie, et c'est là qu'il y a le fameux verset qu'on a chanté, « La joie du Seigneur est notre force ». Et c'est là, du temps de Néhémie, qu'on a instauré le nouvel an juif à Rosh Hashanah. Voilà, fête des trompettes, fête des chauffards. Alors... j'ai demandé à David de nous mettre une petite vidéo pour nous mettre dans l'ambiance Rosh Hashanah. Ce sera mercredi soir en France. Hein. Du mercredi soir, c'est sur deux jours, mercredi soir à vendredi soir. Rosh Hashanah 2017. Donc, regardez bien la vidéo, si on peut éteindre. Là, 2 minutes 30 de vidéo, ça marche ? C'est une vidéo qui va nous transporter normalement à Jérusalem. C'est un extrait de YouTube. Alors, si ça marche, il faudrait regarder. Voilà.
Birthday of creation, yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Oh.
We've come so far to give up who we are. So let's raise the bar.
We'll run, set your goal, and get clarity. God
isn't a time to get grabby.
The present rich with meaning, the future's yours for choosing. The shofar we are hearing, apples dipped in honey.
We make mistakes, start anew. We can change, take stock, suit your soul. Shine at the vibe, time to grow.
Rosh Hashanah written in the book of life. Rosh Hashanah, stop all the strife.
Sound the shofar, we're on. Set your goals and get clarity. God gives life everyone. Rosh Hashanah, back to square one. Envision what your life can become. Rosh Hashanah, time to get clarity. 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 Rosh Hashanah, time to get clarity.
Alors, elle est super cette vidéo parce qu'elle montre les transmissions générationnelles. C'est un petit peu ce qu'ils ont vécu là avec les trois générations la semaine dernière. Hein. Et je me dis que David, un petit peu encore plus de barbe et ça devrait le faire. Hein. Voilà. Et c'est vraiment l'esprit de Rosh Hashanah parce que c'est de la joie, c'est les générations ensemble et c'est de la fête. Et puis, en même temps, les paroles, alors pour ceux qui ne savent pas l'anglais, je reprends un peu les paroles parce qu'elles sont fortes. Et c'est un peu ce que je vais partager là. Les paroles nous disent, choisis la vie, choisis l'avenir. Nous faisons des erreurs, nous pouvons redémarrer, changer. Examine ton âme. Shana Tova, c'est un temps pour grandir. Regarde et examine ce que ta vie pourrait devenir. Abandonner qui nous sommes, parce qu'il y a des nouveaux commencements. Dieu regarde chacun, il veut que nous vainquions. Nous sommes en mouvement. Et Shana Tova, time to get clarity, c'est le temps de faire de la lumière. Raise the bar, je pense, élève le niveau, hein, c'est ça? Raise the bar. Et puis fixe-toi des objectifs, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de ce qui va se passer après Shana Tova, après Rosh Hashanah. Donc vous avez vu les instruments de musique. Il y a en fait deux sortes d'instruments. Il y a les trompettes et vous avez bien sûr le chauffard que j'ai amené. Hein. Mais il y a aussi les trompettes d'argent. Et ça nous parle d'ombre 10. Alors on verra après ce que ça veut dire, il y a les trompettes. Mais vous voyez que c'est un temps à la fois beaucoup de joie, beaucoup de fêtes et en même temps un temps sérieux pour s'examiner. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aussi dans cette petite vidéo tout le côté générationnel, l'amour du père aussi à travers ce rabbin. Ça va, je pense, démonter en vous toutes les idées de rabbin un petit peu tristounet. C'est l'amour du père quoi, qui éclate dans cette petite vidéo. L'amour du père. Et dans cette sécurité de l'amour du père, eh ben, on peut prendre des nouveaux commencements, quoi. Et ça, c'est vraiment la mentalité hébraïque, la mentalité juive, hein, alors qu'ils ne sont sans doute pas chrétiens, hein, pas messianiques, mais il y a vraiment ça en eux, quoi, on a vraiment ça à prendre. Quoi. Donc beaucoup de joie et beaucoup de fêtes, et c'est vrai que Rosh Hashanah, qu'on va fêter la semaine qui vient, c'est une fête très très joyeuse. Et la pédagogie du père est extraordinaire parce que c'est très joyeux, Rosh Hashanah. Après, vous avez 10 jours qui sont sérieux parce que justement, on s'examine. Et après, vous avez Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est le jour le plus saint, effectivement. Alors là, ce n'est pas un jour de fête du tout, du tout. On s'humilie, on humilie son âme. Et là, on va faire ce jeûne et prière, là, au moment du tabernacle. Hein, vraiment un temps d'écoute de Dieu. Et puis après, ça repart dans la fête et c'est Soukhot, le tabernacle. Donc, vous voyez, la pédagogie de Dieu, c'est la fête, un temps très sérieux et de nouveau la fête. Et c'est magnifique, fabuleux, quoi. J'aime beaucoup cette pédagogie divine. Qui n'est pas écrasante, qui n'est pas accablante, qui est pleine de joie et de voilà, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Voilà. Donc, vous voyez aussi on y reviendra, ce côté très très spécial de s'examiner Alors on va voir ce que c'est, parce que là, je reviens à mes histoires de trompette. Trompette et chauffard. Alors, ça a plusieurs objectifs dans la parole. Le chauffard, la trompette. Ça sonne pour indiquer un temps de rassemblement. Et c'est vraiment un temps où le Seigneur nous rassemble, nous pousse les uns contre les autres, un temps pour la communion fraternelle, un temps pour resserrer les rangs à fond, un temps pour l'unité, pour bâtir l'unité entre nous. C'est vraiment un temps fort pour ça. Et puis, ça indique aussi un temps de départ. Il y avait les chauffards sonnaient ou les trompettes d'argent sonnaient quand il fallait lever le camp. Donc, on est vraiment en mouvement, là. On est tous en mouvement. Je disais à l'école, là, c'est comme on est un bateau, mais le bateau, il a pris le large, hein, ça, c'est sûr. Et nous, on est en mouvement. Donc, les trompettes sonnent dans les lieux célestes. L'Esprit de Dieu, il nous interpelle. Il faut se lever, il faut changer de... Nadine parlait de nouvelles dimensions. Hein. On change de dimension. On se lève tous, puisque c'est communautaire. On se lève, on change de dimension, et les chauffards appellent à ça. Et puis, un autre élément du chauffard, c'est un temps de départ en guerre, aussi. Alors, voilà. Ça, c'est... Et puis, je crois qu'il y en a un quatrième. Un quatrième élément, chauffard. Alors, je rappelle, donc, rassemblement, après. Donc, rassemblement, départ, changement de camp, départ en guerre, et il y en a quatrième usage. Ah oui, bien sûr. C'était célébrer, appeler Israël à célébrer les fêtes. Voilà, pour la festivité. Et fête, dans le sens hébraïque, c'est un temps de rencontre avec Dieu. C'est ce qu'on a aussi chanté ce matin. Alors, merci à Lana et Nadine, parce que c'était vraiment conduit. Un temps pour rencontrer Dieu. Donc, le chauffard appelle à tout ça. Donc, je répète. Première utilisation, convocation de l'Assemblée. Ça nous appelle à nous réveiller de notre sommeil, préparer le chemin pour notre Dieu. Deuxième utilisation, changer de campement, progressant dans la foi, allant de gloire en gloire. Troisièmement, nous préparer à la guerre, reprendre le terrain, conquérir, voilà. Sachant que nous sommes dans un temps d'épaisses ténèbres, mais c'est là que l'armée de Joël II se manifeste. Joël II, c'est nous, son armée, hein. Une armée extraordinaire. Et puis, le quatrième usage, donc, nous appeler à célébrer les fêtes. Donc, et la grande fête, c'est le cri de l'Esprit qui dit « Voici l'Époux vient ». L'Esprit appelle « Voici l'Époux vient » et on se lève tous et on y va. Donc, dans une dimension communautaire. Donc, Rosh Hashanah 2017, c'est pas rien. C'est 1517-2017, c'est ça prélude à l'année 5778, après 5777. Et 78, le 8, ça parle d'un nouveau commencement. Et puis, rappelez-vous tout ce que Pierre-Daniel Martin nous a dit sur le 23 septembre 2017. Enfin bon, je ne m'étale pas, mais c'est juste après Rosh Hashanah. Donc, on est dans des temps très, très, très sérieux. Mais en même temps, le Seigneur voudrait, et c'est ce qu'il a fait durant toute cette première partie du culte, vraiment nous mettre dans sa paix. Comme dit le psaume 85, « J'écouterai ce que Dieu dit. Il parle de paix à son peuple. » Et dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, c'est très fort dans nos temps de maison de prière, hein, des temps où on prend du temps dans la présence de Dieu, il parle de paix à son peuple. Et il veut nous conduire dans une très, très profonde sécurité. Alors aujourd'hui, on est le 17-09-2017. Hein. 17, alors je ne m'étale pas, mais ça parle de sécurité. Vous avez un super livre, je fais la pub, là, c'est Édition Lumière de la Vie, qui s'appelle « La plus grande chose de l'univers », et ça te donne la signification biblique de tous les chiffres, les nombres, etc., parce que tout appartient à Dieu, tout parle de Christ, et le 17, c'est la sécurité. Le 9, ça nous parle de la certitude, c'est Amen, c'est Dieu fidèle, véritable. Donc, 2 fois 17 plus Amen, avec ça, on est bon. Hein. Et le Seigneur veut vraiment, Saint-Esprit, il met le doigt, nous conduire dans la profonde sécurité de l'amour de Dieu, y compris pour aborder cette période d'examen. Parce que, voilà, c'est le Saint-Esprit. Alors, la dernière fois que j'avais parlé, c'était par rapport à la parole. Et vous vous rappelez le bâton, la tonte, tout ça. On revient à la parole. Et la parole, elle est forcément animée par l'Esprit. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Entre autres, il fait plein de choses, l'Esprit. Mais il nous conduit dans la vérité. Et la vérité, elle nous libère. Et donc, le Seigneur est en train de mettre en lumière tous les barreaux de prison, c'est-à-dire tous les mensonges qu'on traîne générationnellement, culturellement, familialement, personnellement. Et il y en a un paquet. Mais il nous conduit dans toute la vérité. La vérité va nous libérer. Et donc, on a ce fameux temps qui est devant nous, là, et que je pense qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Alors, bien sûr, on le fait tout le temps, mais il y a des phases où c'est plus sérieux. Le Seigneur nous amène à nous examiner. Et il nous dit dans, alors je suis plein de versets, si nous nous décidons... Ah oui, 1 Corinthiens 11, 31, 32. On peut le prendre, 1 Corinthiens 11, 31, 32. Ça nous parle du jugement. Alors, c'est un mot qu'on n'aime pas du tout, le jugement, mais alors vraiment pas du tout, parce qu'on a plein d'idées là derrière. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, je vais tordre le cou à des traductions, parce que de nouveau, ça ne va pas du tout. Si nous nous jugions nous-mêmes, ce n'est pas le même mot que le juger après. Il y a deux termes. Le premier, juger, c'est dit, écrit, nomen. Il y a le préfixe « di » qui veut dire « distinguer, discerner ». En fait, ça veut dire si nous nous discernions nous-mêmes. C'est-à-dire si nous faisions la distinction entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être selon la parole, vous voyez, une distinction. On est là, la parole dit ça, il y a un écart. Eh bien, le Seigneur nous appelle à nous mettre en route pour combler l'écart, vous voyez. Si nous faisions la distinction entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être, si nous nous discernions nous-mêmes, il ne serait pas nécessaire d'être jugé par le Seigneur. Et quand nous sommes jugés, la suite, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors là, il y a un terme qu'on n'aime pas du tout, le terme châtié. Alors tout de suite, il y a un inconscient collectif français qui se met en route. On n'aime pas être châtié. Et alors, merci Alana, ça m'a fait beaucoup réfléchir. On faisait une remarque par rapport à ça. Et Alana me faisait remarquer que les Américains, ils ont remarqué que les Français ont beaucoup de mal avec le fait de reconnaître des erreurs. Ah, c'est ça, Alana ? Énormément de mal. Ils ont culturellement du mal. Canadiens, plus précisément, ouais. Qui disent que nous, les Français, même dans les magasins, on a culturellement du mal à reconnaître qu'on a pu se tromper, qu'on a fait une erreur, qu'on n'est pas au point. C'est culturel chez nous. Et donc, châtier. Et là, on n'aime pas du tout le terme châtier. Et dès qu'on... On pense qu'on doit être châtié par le Seigneur. Alors là, le monde s'écroule, c'est la fin du monde, c'est terrible. En fait, d'où ça sort cette histoire? Et là, je crois vraiment que le Seigneur met le doigt là-dessus, parce que du coup, on a tendance à fuir, ou à se cacher la face, ou c'est pas moi, c'est l'autre, ou c'est pas ma faute, c'est... Et puis on invente plein de raisons. Mais du coup, on ne s'examine pas soi-même, puisqu'on ne supporte pas le fait de trouver qu'on peut éventuellement être en faute. Et ça, c'est culturel. Parce que, en fait, il y a un énorme mensonge et une énorme confusion dans nos traductions même, entretenues savamment par l'ennemi, qui voudrait évidemment nous garder sous son contrôle, donc dans le mensonge, avec ce terme de châtier. Et en fait, alors, je devais pas du tout parler de ça, mais là, il fallait vraiment, vraiment que je crois que le Seigneur veut démolir une des forteresses de raisonnement dans notre tête française. Alors, les Américains, ils sont peut-être moins concernés, je sais pas. Mais en tout cas, en France, c'est très fort, ça. Le châtiment. Alors d'abord, on va peut-être parler du français. En français, châtier. Châtier, c'est pas ce qu'on croit. Le terme original, plutôt châtier, ça vient de castigare, qui veut pas du tout dire frapper, tomber dessus, etc. Non, ça vient de castus, qui veut dire pur et vertueux. Donc châtier, c'est rendre pur et vertueux. Hein? Bon, petit clin d'œil, Molière, les comédies, ça devait rendre correct les gens, castigat, ridendo mores. Hein. Bon, bah, voilà, c'est très, très connu, castigat, ça veut dire rendre pur, vertueux. Donc rien à voir avec des choses lugubres, sombres et tout. L'objectif est très, très bon. Corriger, c'est encore mieux, corriger en français. Hein. Ça vient de regere, toujours le latin, qui veut dire diriger, régler, et corrigere, ça veut dire améliorer. Non, redresser, améliorer, et... diriger, régler, ça vient de Rego qui a donné quand même Rex, le roi. Ça veut dire nous rendre capables de diriger. C'est fort quand même, corriger, rendre capable de diriger, rendre capable de régner. C'est magnifique. Corriger, ça vaut le coup quand même d'être corrigé, pour être capable de régner correctement. Hein. Après, vous avez un autre terme en français, et c'est peut-être là que là le problème est là. Punir, punition. Punition. Et là, effectivement, ça vient du grec poiné qui veut dire l'expiation d'un crime, le prix du sang, la rançon, l'expiation. Oui, mais dites, qui a payé le crime une fois pour toutes? Hein? C'est Jésus. Donc nous, la punition, c'est fait. C'est pas pour nous, les amis, c'est pas pour nous. On peut être châtié, corrigé, ce que vous voulez, mais pas puni. La punition, elle est tombée sur Jésus. Imaginez que l'énorme châtiment, le faux sens de châtiment qu'on a dans la tête, l'histoire de la punition là, qui tombe, c'est C'est Jésus qui l'a prise. C'est ça l'extraordinaire nouvelle de l'évangile. C'est pas pour nous. On n'est pas concernés. Du moment qu'on s'est confié à Jésus, c'est bon. On a un Dieu extraordinaire qui a pris sur lui-même, à travers Jésus, la punition. C'est fabuleux. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Hein. Mais il faut que ça rentre là-dedans. Parce qu'on fait comme si, en fait, il y a une partie de nous qui ne croit pas. Comme on disait, notre âme a profondément besoin d'être évangélisée. C'est-à-dire la bonne nouvelle, qu'elle est dans les plus profondes, dans les profondeurs de notre âme. Et ça inclut toute l'inconscient collectif que nous avons. Et puis, c'est magnifique d'être châtié quand même. Hein. Mais par contre, la punition, ouais, c'est pas ça du tout. Et alors, ça, programme de seconde, j'ai fait ça avec mes élèves cette semaine, donc c'est tout frais. La plus grande ruse de Satan, le diable, en France en tout cas, ça a été de faire croire qu'il était le dieu de la Bible, alors qu'il avait tous les attributs du Jupiter ou du Zeus gréco-romain. Il a fait exactement, enfin je l'ai déjà expliqué, mais je répète, parce que c'est impressionnant quand même. Hein. Ça a été très fort au XVIIe siècle, du temps de Louis XIV. C'est-à-dire, il se faufile, il prend les traits du dieu biblique, mais en fait, il a tout le caractère du dieu gréco-romain Jupiter Zeus. Vous voyez ? Du genre, bon, je rappelais le foudre, j'avais expliqué, l'emblème de Jupiter, c'est le foudre. Un coup de foudre pour, enfin, un éclair pour avertir. Le deuxième, c'est matraquer, quoi, frapper. Et le troisième, destruction du monde. Comme ça, on n'en parle plus. Vous voyez, ça, c'est typiquement la pensée biblique, enfin, pas biblique, justement, mais gréco-romaine. Le problème, c'est que ça a infiltré l'Église. Ça a infiltré toutes les boîtes religieuses qui ont tordu les pensées de nos anciens. Bon, je pense à mon oncle, ma tante, dégoûtés à jamais de la religion parce qu'on leur a dit que Dieu était, il les surveillait, là. Et puis, au premier truc qui n'allait pas, pan, il leur tombe dessus. Et puis, pas moyen de bouger. Et je reconnais personnellement, j'ai eu un mal fou, par exemple le psaume 139, tu m'entoures par derrière et par devant. Pendant très longtemps, j'ai cru que waouh, j'étais surveillée, mais alors vraiment surveillée, quoi. Hein. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oh là là, au premier petit faux pas, pom, ça tombe. C'est pas ça du tout. Alors je sais pas, peut-être parmi vous, vous êtes hyper renouvelés dans votre intelligence et ça vous parle pas du tout, vous n'êtes pas concernés, vous êtes totalement en sécurité avec ça. Mais moi, j'ai dû me bagarrer des années avec ça jusqu'à ce que je comprenne que le psaume 139, c'est pour protéger, couvrir, veiller sur, mais pas surveiller, mais veiller sur, ça change tout. Donc voilà, mais on se bagarre avec ça et plein de gens dans le monde ne croient pas en Dieu et c'est là que vous devez leur demander, ok, tu crois pas en Dieu, en quel Dieu tu crois pas? Parce que si ça se trouve, moi non plus, je crois pas en ce Dieu-là. Comprenez ? C'est hyper important. En quel Dieu tu crois pas ? Explique-moi. Tu c'est quoi ton image de Dieu, là ? Et puis il vous dira, le père Fouettard, tatati, tatata. Ah oui, bah moi non plus. Non, c'est pas non plus mon Dieu. Du tout. Alors, le Dieu de la Bible, le père de la Bible, c'est Luc 15. Hein, vous êtes d'accord ? Luc 15, aussi Jean 3, 16, si vous voulez, Dieu a tant aimé le monde, c'est un père qui aime. Et quand il suffit d'avoir un petit geste, là, on se retourne vers lui, et il nous accueille les bras grands ouverts. Alors ça, c'est la justification, et Luc en a bien parlé la semaine dernière, hein, la justice, voilà, avec l'affreux Jojo Jacob, là, qui est recouvert du... Vous savez cette histoire d'Ésaü, là, et puis il est accepté par le Père. Donc nous sommes justifiés, le manteau de justice nous couvre, la robe de justice couvre le fils prodigue, ça c'est fait devant l'ennemi, légalement, devant l'adversaire de nos âmes, on est juste, point, final, il n'y a pas à discuter, on est juste. Après, alors ça, c'est Johnny Lewis qui disait ça, je trouvais ça très bon. Sous la robe de justice, ça sentait pas très bon quand même, il faut le dire. Hein, tant d'années avec les cochons, pas terrible. Donc, mais ça, c'est une affaire privée entre la Trinité et nous. Il faut nettoyer quand même tout ça, comprenez ? Ça, c'est la sanctification. C'est entre le Père, et, la Trinité et nous. Moi, je dirais un peu, c'est beaucoup le Saint-Esprit d'ailleurs qui fait ça, parce que Saint-Esprit, c'est roua, c'est féminin en hébreu. Donc, c'est un petit côté maternel. Allez, je te lave, fiston, parce que franchement, là, il faut faire quelque chose. Mais devant les autres, robe de justice, c'est bon. Les sandales, l'anneau, tout ça, c'est bon. Et donc, c'est la grosse. Enfin, il faut être absolument établi dans cette sécurité qu'on est justifié. Ça, c'est bon. Il faut que ça rentre là, qu'on se le dise. Et ça n'empêche pas du tout l'œuvre de sanctification. Où le Saint-Esprit, là, il vient et dit, allez, maintenant, on y va, fiston, on va s'occuper de tout ce qui pue un peu. Mais c'est entre nous, ça. L'adversaire n'a rien à voir là-dedans, l'accusateur n'a rien, aucun droit là-dedans, mais il faut quand même qu'on traite les choses, quoi. Et là, C'est là qu'intervient s'examiner et accepter la correction de papa du ciel. Et c'est là que, là aussi, par rapport à cette histoire de correction, là je parlais du français, hein, avec nos histoires de châtiment, correction, punition, enfin des différents termes. Et puis, et en grec, ça donne quoi? Parce qu'il y a quand même l'original, le Nouveau Testament en grec. Et bien en grec, je voudrais qu'on prenne un passage qui nous dit, alors si on peut prendre 1 Jean 4, 17-18. Hein, 1 Jean 4, 17-18. Vous allez voir pourquoi nos traductions nous ont semé la panique et la confusion dans notre tête. 1 Jean 4, 17-18. Tel il est, tel, donc Jésus, hein, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous sommes justifiés en Christ, nous avons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, et c'est vraiment ce que Dieu veut produire, une sécurité profonde. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je répète, l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bah, et là, si vous êtes un peu attentif, vous allez dire, mais ça colle pas. La crainte suppose un châtiment. Or, on nous dit que Dieu nous châtie, nous corrige. Alors, la crainte suppose un châtiment, mais bien sûr, Dieu nous corrige. Alors, pourquoi on ne devrait pas craindre alors qu'il nous corrige quand même? Eh oui, sauf que ce châtiment-là, ça n'a rien à voir avec le châtiment biblique. C'est un autre mot en grec. Ce n'est pas du tout le même mot. Et la grosse confusion en français, c'est qu'on a le même mot. Vous comprenez le problème, les profs de français? Vous voyez le gros souci qu'on a? Le même mot châtiment en français est utilisé pour la correction biblique et ce châtiment-là qui n'a rien à voir. Alors, quand même, je vais vous dire, quand je suis tombée dessus, j'ai dit waouh, Seigneur, la confusion! Et naturellement, l'ennemi très content de nous mettre le bazar dans la tête. En ce mot-là, châtiment, dans 1 Jean 4, 18, celui qui aspire la crainte, mais ce n'est pas pour nous du tout, c'est le mot colassis. Colassis, et bien là, il apparaît une seule autre fois dans la Bible, c'est Matthieu 25, 46, si on peut le prendre, celui-là, parce qu'on a tout confondu, nous, avec notre histoire de châtiment. Matthieu 25, 46, si tu peux le prendre, ça nous dit, voilà, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, il s'agit bien de colassis, c'est le châtiment éternel, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui ne sont pas confiants en Jésus. On n'est pas du tout concernés, vous comprenez? Mais en français, c'est la même chose, le même mot. C'est désolant. Donc, ça, c'est colassis. Donc, 1 Jean 4, 18, et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne craignez pas, vous êtes en sécurité dans mon amour. Il n'y a pas de châtiment éternel pour vous, pas du tout, du tout. Les justes ont la vie éternelle, et puis, effectivement, ceux qui ont pas du tout, ceux qui ont refusé Jésus, c'est sûr qu'il y a le châtiment éternel. Mais ce n'est pas pour nous. Et là, le mot châtiment, le bon mot, celui qui est utilisé sans arrêt dans Hébreu, c'est un mot fabuleux. Alors, dans Hébreu 12, hein, vous savez, il y a tout un chapitre sur la correction du Père, comment il nous châtie, nous corrige, etc. En grec, c'est un mot extraordinaire. Alors, ce mot extraordinaire, peux prendre peut-être... Alors, on a bien compris, hein, l'amour parfait bannit la crainte. On n'a pas à craindre de châtiment, on n'est pas concerné. Donc, on doit être assuré de la sécurité de l'amour de Dieu. Et puis, vous avez donc Hébreu 12, alors... Vous connaissez tous, il y a plein, c'est tout un long passage qui parle de la correction. Tout un passage qui parle de la correction. Et là, quel est le mot employé par le Saint-Esprit en grec? Qui dit, voilà, considérez celui qui a supporté contre sa personne. Attends, c'est après, on parle de la correction. Je ne sais pas comment c'est dans cette version. Vous avez oublié, mon fils ne méprise pas le châtiment. Vous avez vu le problème? Même mot. En grec, ce n'est pas du tout le même mot. Et en grec, c'est un mot très beau, très, très, très beau, j'insiste, qui est le mot paideia. Paideia, ça vient de paide, ce qui veut dire enfant. Ça donnait pédagogie en France, ou pédiatre, vous voyez? C'est ce mot-là, paideia, c'est vraiment la discipline... enfin, c'est la correction, l'éducation, c'est le père à fils, quoi. Discipline, instruction, formation, entraînement, exercice. C'est entre le père et nous, le païdéia. Rien à voir avec le colassis. Et comme nous, on s'est coupé de la culture hébraïque, comme on s'est coupé des pères, comme on a un gros esprit d'orphelin, on est plongé dans l'insécurité. Et puis, on a tout mélangé. En plus, la traduction aidant, on a tout mélangé. Mais la païdéia, c'est la pédagogie du père. Et il nous reprend avec tout son amour. Et c'est par amour, parce qu'il veut nous conduire à la vérité et puis nous conduire surtout à une profonde relation avec lui. Et tout ce qui obstrue cette relation, cette intimité, cette profonde communion avec lui, eh ben, il corrige, il enlève. Mais c'est vraiment par amour. Et comme dit la parole, la réprimande du juste, c'est de l'huile sur ma tête. La réprimande du Père, c'est de l'huile sur ma tête. Et un peu plus loin, il nous dit redresser tout ce qui est tordu. Et il y a l'esprit d'Élie qui souffle très, très fort actuellement pour dire, l'esprit d'Élie nous dit, que les vallées soient exaucées, que les coteaux soient abaissés, toutes ces forteresses de faux raisonnements là, qui nous coupent de la communion avec le Père, que les chemins raboteux soient aplanis, enlever tous les cailloux, tous les obstacles, parce qu'il y a un chemin de gloire. Donc, je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à renoncer à ces tas de confusion dans la tête, là, tout ce qui nous met dans la crainte du châtiment colassis, là, mauvais, là, le châtiment perdition éternelle, etc., et qu'on accepte, parce que du coup, c'est tordu, c'est traître, cette histoire, parce que ça nous empêche de nous examiner sereinement, parce que on a du mal à se sentir repris, on a du mal à accepter la discipline de Dieu, mais il y a tout cet arrière-plan, il faut qu'on en soit conscient, que la lumière de l'esprit vienne sur tout ça, pour qu'on accepte humblement de s'examiner, comme le disait un peu le chant, hein, get clarity, qu'on accepte la lumière du Saint-Esprit, et s'il nous montre des choses qui ne sont pas alignées avec Dieu, avec sa parole, eh ben, il n'y a aucun problème, on sait que c'est par amour qu'il le fait. C'est pour nous libérer, pour nous faire du bien, pour nous emmener plus loin. Et puis on peut simplement, toujours dans cette sécurité, demander pardon, et puis dire Seigneur, voilà, j'ai été complètement à côté de la plaque, maintenant je te demande pardon, et puis on s'aligne, mais toujours dans cette profonde sécurité. Et c'est, je crois que c'est vraiment ça que le Seigneur veut faire. Et puis il veut, à partir de, voilà, qu'on ait ce temps d'examen personnel à sa lumière. Et merci Saint-Esprit, parce que non seulement il nous révèle tout ce qui n'est pas dans la vérité dans nos vies, mais il nous révèle aussi l'amour du Père. L'amour de Dieu est répandu, Romains 5, 5. Hein. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et à la fois, vous avez cette révélation de l'amour du Père par l'Esprit et aussi cette révélation de la vérité par l'Esprit. Et tout ça, c'est pour notre bien. Donc, c'est pour notre profonde sécurité. Et si vous voulez, je voudrais qu'on prenne position en tant que, voilà, que Église Josué. Peut-être qu'on est un petit peu... On a un rôle de sacrificateur pour l'ensemble de l'Église de France, qu'on décide une bonne fois pour toutes de renoncer à ces fausses images de châtiment, de correction, enfin tout ce qui est faussé dans notre culture, et qu'on accepte de s'examiner, mais dans cet profond amour, dans la sécurité, dans, vous savez, la roue de l'esprit qui nous lave sous la robe de justice, et qu'on accepte ça, qu'on ne se cache pas, qu'on ne se donne pas des faux fuyants, qu'on ne fuit pas, qu'on soit honnête, vrai, courageux, et qu'on traite. Parce que derrière, c'est un chemin de gloire que le Seigneur veut tracer, et il veut purifier son Église aussi. Et c'est magnifique, quoi. Les plans de Dieu sont magnifiques et sont amour, parce que Dieu est amour. Voilà, donc si on peut vraiment, on va prendre position, puis peut-être chacun pour nous aussi, pour le corps de Christ, pour l'Église de France, pour nous personnellement, pour nous tous, et accepter de rentrer dans ce temps post-Shana Tova, ce temps d'examen, ces 10 jours-là d'examen, et de remise en question, et de rentrer en soi-même. Seigneur, on se tient comme sacrificateur pour l'Église de France. Seigneur, elle a été souillée par tellement de faux concepts. Elle a accepté des énormes mensonges sur toi parce qu'elle s'est coupée de la racine hébraïque. Et parce qu'elle a mis dehors aussi tous ceux qui voulaient aimer ta parole à travers les huguenots. Seigneur, et on s'est retrouvés avec des mensonges énormes et on les a crus et on les a pratiqués. Et on a fui ta lumière parce qu'on avait peur. Et on n'a pas porté de fruits en tant qu'Église parce que, pareil, on avait peur. Et on a enfoui notre talent parce qu'on croyait que tu étais un père dur, méchant, et on n'a pas porté de fruits. On a été stérile pendant des siècles. Seigneur, on veut renoncer à ces mensonges et recevoir la révélation par l'Esprit, Saint-Esprit, tu viens révéler combien tu es un Père joyeux, un Père aimant, un Père qui veut corriger dans le sens de élever, te donner la capacité à régner. Tu veux élever, éduquer, c'est ton désir, tu as tout payé, tu as pris la punition, le châtiment, c'est toi qui l'as pris en Jésus. C'est Jésus qui l'a pris pour que nous, on soit simplement éduqués et qu'on puisse régner avec toi. Et surtout avoir une communion d'enfant à père, communion avec la Trinité, sans aucune ombre. Une communion sans ombre, Seigneur. Moi, je te prie vraiment, continue à faire tomber tous ces faux raisonnements dans notre pensée qui sont hérités de tellement de générations qui ont été obscurcies dans leur relation avec toi. Et Seigneur, continue à faire tomber tout ça dans notre vie personnelle, dans l'Église de France, qu'on puisse recevoir pleinement le ministère de l'Esprit qui veut révéler le Père. Et puis Seigneur, que comme sacrificateur et puis aussi personnellement, on rentre dans ces jours d'examen, ces jours où on rentre en nous-mêmes, ces 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, où on prend du temps pour dire, on est honnête, Saint-Esprit, mets la lumière là où on n'est pas aligné avec toi. Mais on sait que tu vas nous montrer des choses, mais dans l'amour, dans la paix, juste pour nous libérer, pour nous faire aller plus loin avec toi, pour nous changer de campement, nous faire entrer dans d'autres dimensions. Alors Seigneur, on place sous ton sang, sous ta sécurité, tous ces jours de recherche de toi, d'examen, de mise en lumière, et qu'on soit aussi encourageant et plein d'amour les uns pour les autres, quels que soient les... Quoi que tu nous montres, Seigneur, tu peux nous montrer au niveau collectif pour l'Église, tu peux nous montrer au niveau individuel des tas de choses, peut-être qui sont alignées, qui sont rectifiées, qui sont à des demandes de pardon, des tas de choses comme ça, mais qu'on soit juste obéissant et surtout qu'on le fasse sans crainte. L'amour parfait, ta révélation, ton amour, elle bannit la crainte. Alors tu nous entraînes plus loin dans cette sécurité, le 17-09-2017, la sécurité totale de ton amour et de ta rédemption et de ta justification. Par le sang de Jésus. On est justifié. L'ennemi n'a aucun droit pour nous accuser. Et simplement, c'est entre nous, tu nous sanctifies, tu nous rends semblables à ton Fils. Mais c'est entre nous, dans le cœur à cœur, et dans la vérité de ta lumière, Seigneur. Alors fais-le. On est d'accord pour aller où que tu nous montres, et d'être honnête, de laisser de côté tous nos vieux schémas. Et, Seigneur, parce que l'Esprit souffle et dit redresser les chemins tortueux, que le roi de gloire fasse son entrée, et que ton Église soit remplie de ta gloire. On va juste prendre 2-3 minutes, peut-être personnellement dans le silence. Seigneur, on s'appuie sur ta promesse. Je vous enverrai Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ta promesse. Et merci parce que tu vas le faire. Tu es fidèle, véritable et tu vas le faire. Amen.